Procivis, l'immobilier qui a du sens, présente
Sud Radio, le grand matin week-end. Osez investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Et c'est le 94e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet.
Bonjour Laurence.
Alors, vous allez aborder quel sujet cette semaine?
Eh bien, on va commencer à parler de location de piscine comme innovation de la semaine. Nous recevrons ensuite Yannick Borde, qui est le président du réseau Procivis, promoteur et constructeur de maisons individuelles. Et on continuera avec notre consultant en gestion de patrimoine, Guy Marty.
Et puis en deuxième partie d'émission, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Ça, j'en suis certaine. On sera en compagnie avec Pierre Perret, bien sûr. Qu'on ne présente plus, auteur, compositeur et interprète forcément.
TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc, présente
Sud Radio. Osez investir, la clé de la semaine.
C'est l'été, les vacances qui arrivent pour beaucoup. Justement, Thomas, aujourd'hui, vous allez nous parler de location, mais pas location de maison de vacances, location de piscine.
Et absolument, Laurence, avec les fortes chaleurs que nous pouvons rencontrer, la tentation d'aller se baigner est grande. Alors, que diriez-vous d'aller profiter d'une piscine, ma chère Laurence ?
Moi, je dirais pas non, mais je n'en ai pas.
Hein. Ben voilà, mais c'est bien le problème. Donc, bon, je sais que vous n'en avez pas, donc moi, j'ai peut-être une solution pour vous. Pourquoi ne pas en louer une chez un particulier ? Les locations de piscine se démocratisent de plus en plus, des plateformes comme Swimmy vous trouve une piscine proche de chez vous avec toute l'intimité et le confort de votre maison.
L'intimité, ça compte. Hein. Quel est Absolument. Le process pour louer justement une piscine, Thomas ?
Alors, il faut vous rendre sur le site de swimmy.fr, indiquer la ville et la date à laquelle vous souhaitez vous baigner. Ensuite, vous faites votre choix entre jacuzzi, piscine intérieure ou extérieure. D'autres services complémentaires peuvent s'y ajouter, comme la mise à disposition de serviettes ou d'un barbecue. A contrario, si vous en possédez une et que vous souhaitez la mettre en location, il vous suffit de créer un compte et de renseigner toutes les informations de votre piscine.
Bon, puis la question que se posent beaucoup d'auditeurs, combien ça coûte
Eh ben, le prix diffère en fonction des particuliers et du type de location. Vous devez également prévoir des frais de service de la plateforme.
Immoestim, commercialisateur en immobilier neuf, présente
Sud Radio. Osez investir, Immo News.
Et notre invité cette semaine, c'est Yannick Borde. Il est président du réseau Procivis, qui est un réseau immobilier d'envergure nationale, qui est le deuxième d'ailleurs constructeur de maisons individuelles et le 10e promoteur français.
Bonjour Yannick Borde.
Bonjour.
Yannick Borde, l'été est là, on vient de le dire à l'instant, le moment est au bilan. Comment s'est déroulée votre activité durant cette année un peu spéciale?
Alors effectivement, l'année 2021, elle est à mi-chemin. Après, une année 2020 elle-même un petit peu particulière. Donc on a eu à la fois les impacts de la crise sanitaire qui effectivement ont chahuté et percuté notre activité, notamment sur le plan commercial dans un premier temps avec les fermetures des sites et puis les arrêts de chantier, notamment sur le premier confinement de mars, avril, mai 2020. Et puis le phénomène aussi indirect qui a été le report des échéances électorales qui fait qu'on a eu un certain nombre de procédures, notamment d'autorisation de construire, qui ont été suspendues, qui sont apparues qu'à partir du mois de juillet. Donc une année chahutée qui s'inscrivait déjà en baisse en matière d'autorisation de construire et de construction de logements. Et donc ça s'est bien évidemment poursuivi.
Alors vous parlez justement des municipales qui ont eu lieu l'an passé. Est-ce que justement les permis de construire sont repartis à la hausse sur l'année 2021?
Alors, sur le début d'année 2021, absolument pas. Il y a un frémissement sur le deuxième trimestre. Il faut toujours faire très attention sur les notions. Il faut les regarder un peu dans la durée, puisqu'on peut avoir un mois un peu fort pour des raisons très conjoncturelles. Donc, il faut un peu regarder ça dans la durée. Mais la baisse aujourd'hui des autorisations de construire, elle est toujours là si on lisse les cinq, parce que pour l'instant, on n'a que jusqu'à fin mai, les cinq premiers mois de l'année 2021, ce qui n'est absolument pas de bon augure pour la suite. Puisqu'on est dans un problème, nous, qui n'est pas un problème de marché ou de demande, c'est un problème vraiment d'offre. Et on sait très bien que sur la construction neuve, reconstituer une offre, c'est quelque chose d'extrêmement lent, extrêmement long. Et c'est ça qui risque demain de manquer fortement. On est aujourd'hui sur des niveaux de production qui sont extrêmement faibles.
Alors, ce que vous laissez entendre, sans forcément le dire directement, c'est que les prix ne vont pas baisser, du coup.
Il n'y a pas de secteur économique où quand l'offre est inférieure à la demande, les prix baissent. Donc, effectivement, le logement n'y échappera pas. On est sur des stocks, par exemple, aujourd'hui, qui sont très, très faibles. Moi, sur les différentes sociétés du réseau ou sur le groupe que je dirige, on est sur des stocks achevés qui sont quasiment à zéro. Donc, effectivement, toutes les opérations qu'on démarre et qu'on lance se passent plutôt bien sur le plan commercial, y compris avec des tensions sur les prix, qui sont aussi provoquées par les tensions sur les coûts de construction. Donc, on a des phénomènes aujourd'hui qui sont un peu à contre-cycle par rapport aux aspirations, notamment parfois annoncées par le gouvernement, par les grands élus, de vouloir baisser les prix des logements.
Oui, parce que Yannick Borde, vous parlez des matériaux, les coûts de construction, c'est des matériaux qui flambent aujourd'hui, très clairement.
Clairement, aujourd'hui, on a à peu près 20% d'augmentation sur les estimations de coûts de construction, ce qui est énorme, hein. Alors après, ouais. il y a deux écoles aujourd'hui. Il y a une école qui, celle que je partage un petit peu, qui dit qu'il y a un certain nombre de filières qui ont été désorganisées par la crise sanitaire, qui vont se réorganiser, et peut-être qu'à l'automne, on reviendra sur quelque chose de plus raisonnable. Une partie, néanmoins, on pense notamment au bois, hein, c'est bien connu, tout le problème du bois en ce moment est un problème mondial. Il ne va pas se réguler facilement s'il se régule, ce qui n'est pas du tout garanti. Donc voilà, tous ces phénomènes font qu'aujourd'hui, on est sur un marché qui va être très très dur à faire baisser en termes de prix pour les clients acquéreurs, et vraisemblablement que sur un certain nombre de territoires, les prix atteignent aujourd'hui des plafonds en capacité d'investissement et d'achat pour nos clients.
Alors, avant la crise sanitaire, Yannick Bordon, nous avions observé que c'était les grandes villes qui étaient normalement attractives pour les acheteurs, c'est le phénomène de métropolisation. Depuis un an, ça serait a priori les villes de moins de 20 000 habitants qui tiendraient la corde dans les intentions d'achat. Est-ce que vous, dans votre réseau, vous confirmez cette tendance à peu observée ?
Alors, le réseau, nous, il a d'abord la particularité d'être très présent sur les territoires, que je vais dire un peu secondaires, tirant des 13 métropoles où il est présent, mais également sur tout un tas d'ensembles d'autres villes dites moyennes. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'elle tienne la corde. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une attractivité accrue de ces territoires. Donc, il y a beaucoup plus de villes qui, aujourd'hui, ont une attractivité. On avait déjà, nous, fait des remarques sur l'hypermétropolisation avant la crise sanitaire en disant qu'on était peut-être rendu à un maximum et un peu au bout du phénomène. Alors, on n'est pas sur une démétropolisation nécessairement massive, mais on voit bien que la crise sanitaire, elle a fait apparaître une véritable inégalité dans la façon dont chacun a vécu cette crise en fonction de son logement, et qu'effectivement, il y a des aspirations sur des villes plus moins denses, sur le télétravail qui permet aussi de s'éloigner de son lieu de travail au moins 2-3 jours par semaine et peut-être d'accepter une autre forme de rythme. Voilà, et donc certainement des territoires qui l'étaient moins le deviennent plus, sans pour autant, enfin c'est pas nécessairement la vision qu'on a. On voit bien qu'il y a des baisses de volume sur les grandes métropoles, mais pas de façon très importante, et les problèmes de permis de construire sont hyper concentrés sur les grandes métropoles. Donc, il faut faire attention à cette lecture un peu rapide qu'on aurait par rapport à ces territoires.
Ah, moi, je voudrais vous amener sur un autre terrain qui est celui de la fréquentation des biens qu'on aurait envie d'acheter. On a vu que pendant la période de crise qu'on a rencontrée, la connaissance des biens se faisait principalement par Internet, en raison évidemment des restrictions des visites de maisons et d'appartements. Pensez-vous que ce phénomène est durable ou allons-nous revenir à la situation d'avant ? On va prendre notre mal en patience, on va aller dans les agences, on va aller dans les bulles de vente et on va aller visiter les biens de façon traditionnelle, ou c'est peut-être un mix des deux ? Comment voyez-vous la situation ?
Ouais, je vais faire un peu la réponse de Normand, c'est-à-dire c'est un peu sans doute un mix des deux. Il faut déjà avoir à l'esprit que dans la vente de neuf, en fin de compte, très souvent, on vend sans avoir le bien construit. Donc, était déjà habitué à vendre sur plan, à emmener certes les clients sur les terrains pour qu'ils visualisent un peu l'environnement, qu'ils essaient de se mettre en perspective. Mais on sait aussi que beaucoup de personnes ont du mal à se projeter dans un environnement en 3D, c'est pas nécessairement évident de se rendre compte de la taille d'une pièce quand on est sur un plan. Donc, on avait déjà développé des outils autour de la réalité virtuelle, etc. Vraisemblablement, par contre, que la période qu'on a vécue nous a fait aussi changer nos modes de fonctionnement. Moi, je pense qu'il y aura toujours une volonté quand même, surtout sur le patrimoine existant. C'est vrai que sur le neuf à construire, on est toujours dans cette perspective-là. Mais sur le patrimoine existant, je pense qu'on a toujours quand même une vraie volonté de nos clients, à un moment ou à un autre, de visualiser concrètement quand même le bien qui est à acquérir. Mais c'est vrai que sur la vente sur plan, et si on revient tout à l'heure à ce que je disais sur l'absence d'offres, aujourd'hui, celui qui veut acheter du neuf, il faut qu'il achète avant que ça soit construit, sinon il n'aura pas.
Merci Yannick Bord, et je rappelle que vous êtes le président du réseau Procivis.
Sud Radio, osez investir.
Guy Marty, vous êtes le consultant d'Oser Investir en gestion de patrimoine et le fondateur de pierrepapier.fr. Alors, nous avons eu le coworking et maintenant le sujet qui monte est le co-living. Au-delà du fait que nous sommes passés d'un américanisme à un autre, pensez-vous que cela pourrait se développer en France ?
Alors, il faut savoir que la colocation est un phénomène qui s'est beaucoup développé chez les jeunes ces dernières années, pour des questions évidentes de budget par rapport au niveau des loyers. Et ce n'est d'ailleurs pas un phénomène seulement français. En Angleterre, il est courant depuis très longtemps que plusieurs familles habitent ensemble, toujours pour des questions de budget, par rapport à la cherté des loyers.
Alors, donc rien de vraiment nouveau en réalité ?
Ah si, si. Il y a aujourd'hui en fait deux nouveautés.
Oui.
D'abord, la recherche nouvelle de liens sociaux. On a vu par exemple des familles se regrouper pour construire et habiter un immeuble adapté à une vie plus en commun. Pourquoi ne pas partager une cuisine ou un salon et organiser à plusieurs une partie des courses ou l'accompagnement des enfants. Et on a vu aussi dans certains territoires sinistrés, des associations réhabiliter une vieille maison inoccupée et y mettre une personne âgée, un jeune couple en difficulté et autres personnes à aider, avec l'intention aussi de rompre la solitude. Donc, sortir du schéma un logement, une personne ou bien un logement, une famille, est une tendance nouvelle et intéressante.
Vous avez parlé de deux nouveautés, je crois.
Oui, car il y a une caractéristique de notre époque, on invente sans cesse de nouveaux services. Alors, en bon américain dans le texte, après le coworking pour les entreprises, qui a d'ailleurs révélé une demande potentielle considérable, pourquoi pas le co-living ? Un promoteur, puis un investisseur, plus un prestataire de services, et on offre à des particuliers ou des familles de se regrouper dans un immeuble bien conçu pour cela, avec des parties privatives et des parties vraiment communes. Le prestataire de services propose une sorte de gardiennage super développé, peut-être même des animations. Avec la règle d'or de notre époque, le zapping, chacun peut s'installer durablement ou être de passage pour quelques semaines ou quelques mois.
Donc c'est pas une mode superficielle.
Alors justement, il est difficile de dire quelles sont les formules exactement qui finiront par s'imposer, mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens veulent renouveler la façon de vivre ensemble et le co-living en fait partie.
Merci Guy.
Merci beaucoup, merci à vous deux. On reste bien sûr tous ensemble, on revient dans un instant avec Oser Investir le Club et puis notre invité, Pierre Perret. Waouh, chouette, allez.
Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir l'hebdo, 9h30-10h, Tom Abinet.
Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens. Procivis, l'immobilier qui a du sens, présente
Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir l'hebdo, 9h30-10h, Tom Abinet.
Et c'est le 94e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet.
Bonjour Laurence.
Alors, vous allez aborder quel sujet cette semaine ?
Eh bien, on va commencer par parler de location de piscine comme innovation de la semaine. Nous recevrons ensuite Yannick Bord, qui est le président du réseau Procivis, promoteur et constructeur de maisons individuelles. Et on continuera avec notre consultant en gestion de patrimoine, Guy Marty.
Et puis en deuxième partie d'émission, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup, beaucoup d'auditeurs.
On sait.
Ah, ça j'en suis certaine. On sera en compagnie avec Pierre Perret, bien sûr, qu'on ne présente plus, auteur, compositeur et interprète forcément.
TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc, présente
Sud Radio, Osez Investir, la clé de la semaine.
C'est l'été, les vacances qui arrivent pour beaucoup. Justement, Thomas, aujourd'hui, vous allez nous parler de location, mais pas location de maison de vacances, location de piscine.
Et absolument, Laurence, avec les fortes chaleurs que nous pouvons rencontrer, la tentation d'aller se baigner est grande. Alors, que diriez-vous d'aller profiter d'une piscine, ma chère Laurence ?
Moi, je dirais pas non, mais je n'en ai pas.
Ben voilà, mais c'est bien le problème. Donc, bon, je sais que vous n'en avez pas, donc moi, j'ai peut-être une solution pour vous. Pourquoi ne pas en louer une chez un particulier ? Les locations de piscine se démocratisent de plus en plus, des plateformes comme Swimmy vous trouve une piscine proche de chez vous avec toute l'intimité et le confort de votre maison.
L'intimité, ça compte. Hein. Quel est le process pour louer justement une piscine, Thomas ?
Alors, il faut vous rendre sur le site de swimmy.fr, indiquer la ville et la date à laquelle vous souhaitez vous baigner. Ensuite, vous faites votre choix entre jacuzzi, piscine intérieure ou extérieure. D'autres services complémentaires peuvent s'y ajouter, comme la mise à disposition de serviettes ou d'un barbecue. A contrario, si vous en possédez une et que vous souhaitez la mettre en location, il vous suffit de créer un compte et de renseigner toutes les informations de votre piscine.
Bon, puis la question que se posent beaucoup d'auditeurs, combien ça coûte hein ?
Eh ben, le prix diffère en fonction des particuliers et du type de location. Vous devez également prévoir des frais de service de la plateforme.
ImmoStim, commercialisateur en immobilier neuf, présente
Sud Radio, Osez Investir, Immo News.
Et notre invité cette semaine, c'est Yannick Bord. Il est président du réseau Procivis, qui est un réseau immobilier d'envergure nationale, qui est le deuxième d'ailleurs constructeur de maisons individuelles et le 10e promoteur français.
Bonjour Yannick Bord.
Bonjour.
Yannick Bord, l'été est là, on vient de le dire à l'instant, le moment est au bilan. Comment s'est déroulée votre activité durant cette année un peu spéciale ?
Alors effectivement, l'année 2021, elle est à mi-chemin, après une année 2020 elle-même un petit peu particulière. Donc on a eu à la fois les impacts de la crise sanitaire qui effectivement ont chahuté et percuté notre activité, notamment sur le plan commercial dans un premier temps avec les fermetures des sites et puis les arrêts de chantier, notamment sur le premier confinement de mars, avril, mai 2020, et puis le phénomène aussi indirect qui a été le report des échéances électorales qui fait qu'on a eu un certain nombre de, de procédures, notamment d'autorisation de construire, qui ont été suspendues, qui sont apparues qu'à partir du mois de juillet. Donc une année chahutée qui s'inscrivait déjà en baisse en matière d'autorisation de construire et de construction de logements. Et donc ça s'est bien évidemment poursuivi.
Alors vous parlez justement des municipales qui ont eu lieu l'an passé. Est-ce que justement les permis de construire sont repartis à la hausse sur l'année 2021 ?
Alors, sur le début de l'année 2021, absolument pas. Il y a un frémissement sur le deuxième trimestre. Il faut toujours faire très attention sur les notions. Il faut les regarder un peu dans la durée, puisqu'on peut avoir un mois un peu fort pour des raisons très conjoncturelles. Donc, il faut un peu regarder ça dans la durée. Mais la baisse aujourd'hui des autorisations de construire, elle est toujours là si on lisse les cinq, parce que pour l'instant, on n'a que jusqu'à fin mai, les cinq premiers mois de l'année 2021, ce qui n'est absolument pas de bon augure pour la suite. Puisqu'on est dans un problème, nous, qui n'est pas un problème de marché ou de demande, c'est un problème vraiment d'offre. Et on sait très bien que sur la construction neuve, reconstituer une offre, c'est quelque chose d'extrêmement lent, extrêmement long. Et c'est ça qui risque demain de manquer fortement. On est aujourd'hui sur des niveaux de production qui sont extrêmement faibles.
Alors, ce que vous laissez entendre, sans forcément le dire directement, c'est que les prix ne vont pas baisser, du coup.
Il n'y a pas de secteur économique où quand l'offre est inférieure à la demande, les prix baissent. Donc, effectivement, le logement n'y échappera pas. On est sur des stocks, par exemple, aujourd'hui, qui sont très, très faibles. Moi, sur les différentes sociétés du réseau ou sur le groupe que je dirige, on est sur des stocks achevés qui sont quasiment à zéro. Donc, effectivement, toutes les opérations qu'on démarre et qu'on lance se passent plutôt bien sur le plan commercial, y compris avec des tensions sur les prix, qui sont aussi provoquées par les tensions sur les coûts de construction. Donc, on a des phénomènes aujourd'hui qui sont un peu à contre-cycle par rapport aux aspirations, notamment parfois annoncées par le gouvernement, par les grands élus, de vouloir baisser les prix des logements.
Oui, parce que Yannick Bord, vous parlez des matériaux, coûts de construction, c'est des matériaux qui flambent aujourd'hui, hein, très clairement.
Clairement, aujourd'hui, on a à peu près 20% d'augmentation sur les estimations de coûts de construction, ce qui est énorme. Hein. Il y a deux écoles aujourd'hui. Il y a une école qui, celle que je partage un petit peu, qui dit qu'il y a un certain nombre de filières qui ont été désorganisées par la crise sanitaire qui vont se réorganiser. Et peut-être qu'à l'automne, on reviendra sur quelque chose de plus raisonnable. Une partie, néanmoins, on pense notamment au bois. Hein, c'est bien connu. Tout le problème du bois en ce moment est un problème mondial. Il ne va pas se réguler facilement s'il se régule, ce qui n'est pas du tout garanti. Donc voilà, tous ces phénomènes font qu'aujourd'hui, on est sur un marché qui va être très, très dur à faire baisser en termes de prix pour les clients acquéreurs. Et vraisemblablement que sur un certain nombre de territoires, les prix atteignent aujourd'hui des plafonds en capacité d'investissement et d'achat pour nos clients.
Alors, avant la crise sanitaire, Yannick Bord, nous avions observé que c'était les grandes villes qui étaient normalement attractives pour les acheteurs. C'est le phénomène de métropolisation. Depuis un an, ça serait a priori les villes de moins de 20 000 habitants qui tiendraient la corde dans les intentions d'achat. Est-ce que vous, dans votre réseau, vous confirmez cette tendance à peu observée ?
Alors, le réseau, nous, il a d'abord la particularité d'être très présent sur le territoire, que je vais dire un peu secondaire, c'est-à-dire au-delà des 13 métropoles où il est présent, mais également sur tout un tas d'ensembles d'autres villes dites moyennes. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'elle tienne la corde. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une attractivité accrue de ces territoires. Donc, il y a beaucoup plus de villes qui, aujourd'hui, ont une attractivité. On avait déjà, nous, fait des remarques sur l'hypermétropolisation avant la crise sanitaire en disant qu'on était peut-être rendu un maximum et un peu au bout du phénomène. Alors, on n'est pas sur une démétropolisation nécessairement massive, mais on voit bien que la crise sanitaire, elle a fait apparaître une véritable inégalité dans la façon dont chacun a vécu cette crise en fonction de son logement, et qu'effectivement, il y a des aspirations sur des villes plus moins denses, sur le télétravail qui permet aussi de s'éloigner de son lieu de travail au moins 2-3 jours par semaine et peut-être d'accepter une autre forme de rythme. Voilà, et donc certainement des territoires qui l'étaient moins le deviennent plus, sans pour autant, enfin c'est pas nécessairement la vision qu'on a. On voit bien qu'il y a des baisses de volume sur les grandes métropoles, mais pas de façon très importante, et les problèmes de permis de construire sont hyper concentrés sur les grandes métropoles. Donc, il faut faire attention à cette lecture un peu rapide qu'on aurait par rapport à ces territoires.
Alors moi, je voudrais vous amener sur un autre terrain qui est celui de la fréquentation des biens qu'on aurait envie d'acheter. On a vu que pendant la période de crise qu'on a rencontrée, la connaissance des biens se faisait principalement par Internet, en raison évidemment des restrictions des visites de maisons et d'appartements. Pensez-vous que ce phénomène est durable ou allons-nous revenir à la situation d'avant ? On va prendre notre mal en patience, on va aller dans les agences, on va aller dans les bulles de vente et on va aller visiter les biens de façon traditionnelle, ou c'est peut-être un mix des deux ? Comment voyez-vous la situation ?
Ouais, je vais faire un peu la réponse de Normand, c'est-à-dire c'est un peu sans doute un mix des deux. Il faut déjà avoir à l'esprit que dans la vente de neuf, en fin de compte, très souvent, on vend sans avoir le bien construit. Donc,
C'est
on était
vrai.
déjà habitué à vendre sur plan, à emmener certes les clients sur les terrains pour qu'ils visualisent un peu l'environnement, c'est de se mettre en perspective. Mais on sait aussi que beaucoup de personnes ont du mal à se projeter dans un environnement en 3D. Ce n'est pas nécessairement évident de se rendre compte de la taille d'une pièce quand on est sur un plan. Donc, on avait déjà développé des outils autour de la réalité virtuelle, etc. Vraisemblablement, par contre, que la période qu'on a vécue nous a fait aussi changer nos modes de fonctionnement. Bon, moi, je pense qu'il y aura toujours une volonté quand même, surtout sur le patrimoine existant. C'est vrai que sur le neuf à construire, on est toujours dans cette perspective-là. Mais sur le patrimoine existant, je pense qu'on a toujours quand même une vraie volonté de nos clients, à un moment ou à un autre, de visualiser concrètement quand même le bien qui est à acquérir. Mais c'est vrai que sur la vente sur plan, et si on revient tout à l'heure à ce que je disais sur l'absence d'offres, aujourd'hui, celui qui veut acheter du neuf, il faut qu'il achète avant que ça soit construit, sinon il n'aura pas.
Merci Yannick Borde et je rappelle que vous êtes le président du réseau Procivis.
Sud Radio, Osez Investir.
Guy Marty, vous êtes le consultant d'Osez Investir en gestion de patrimoine et le fondateur de pierrepapier.fr. Alors nous avons eu le coworking et maintenant le sujet qui monte est le co-living. Au-delà du fait que nous sommes passés d'un américanisme à un autre, pensez-vous que cela pourrait se développer en France?
Alors, il faut savoir que la colocation est un phénomène qui s'est beaucoup développé chez les jeunes ces dernières années, pour des questions évidentes de budget par rapport au niveau des loyers. Et ce n'est d'ailleurs pas un phénomène seulement français. En Angleterre, il est courant depuis très longtemps que plusieurs familles habitent ensemble, toujours pour des questions de budget, par rapport à la cherté des loyers.
Alors, donc rien de vraiment nouveau en réalité?
Ah si, si. Il y a aujourd'hui en fait deux nouveautés.
Oui.
D'abord, la recherche nouvelle de liens sociaux. On a vu par exemple des familles se regrouper pour construire et habiter un immeuble adapté à une vie plus en commun. Pourquoi ne pas partager une cuisine ou un salon et organiser à plusieurs une partie des courses ou l'accompagnement des enfants. Et on a vu aussi, dans certains territoires sinistrés, des associations réhabiliter une vieille maison inoccupée et y mettre une personne âgée, un jeune couple en difficulté et autres personnes à aider, avec l'intention aussi de rompre la solitude. Donc, sortir du schéma un logement, une personne, ou bien un logement, une famille, est une tendance nouvelle et intéressante.
Vous avez parlé de deux nouveautés, je crois.
Oui, car il y a une caractéristique de notre époque, on invente sans cesse de nouveaux services. Alors, en bon américain dans le texte, après le coworking pour les entreprises, qui a d'ailleurs révélé une demande potentielle considérable, pourquoi pas le co-living? Un promoteur, puis un investisseur, plus un prestataire de services, et on offre à des particuliers ou des familles de se regrouper dans un immeuble bien conçu pour cela, avec des parties privatives et des parties vraiment communes. Le prestataire de services propose une sorte de gardiennage super développé, peut-être même des animations, avec la règle d'or de notre époque, le zapping. Chacun peut s'installer durablement ou être de passage pour
donc,
quelques semaines ou quelques mois.
Donc ce n'est pas une mode superficielle.
Alors justement, il est difficile de dire quelles sont les formules exactement qui finiront par s'imposer, mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens veulent renouveler la façon de vivre ensemble et le co-living en fait partie.
Merci Guy.
Merci beaucoup, merci à vous deux. On reste bien sûr tous ensemble, on revient dans un instant avec Osez Investir le Club et puis notre invité, Pierre Perret. Waouh, chouette, allez.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir l'hebdo, 9h30-10h, Tom Abinet.
Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens. Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir le Club, 9h30-10h, Tom Abinet.
Et c'est l'heure de retrouver notre invité. Quel invité, Pierre Perret, qu'on ne présente plus. Et pourtant, bah, comme à chaque fois, Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers un portrait un peu inattendu. Et forcément, ça va être un petit réveil en fanfare ce dimanche matin.
Oui, chers auditeurs, vous allez tout savoir sur Pierre Perret, le vrai, le faux. S'il est laid ou s'il est beau, si c'est un dur ou c'est un mou, je vais tout vous dire sur Pierre Perret. Mais quel bonheur de vous recevoir, Pierre Perret, dans Osez Investir, vous qui êtes un personnage à part dans la chanson française. Alors sans vouloir vous faire un concert de louanges ni sortir les violons, déchiffrons ensemble la partition de votre vie. Vous êtes né un 9 juillet à Castelsarrasin ou Castel pour les intimes, au moment des jolies colonies de vacances et avez grandi dans le café-bar-restaurant de vos parents. Il est à assez probable que c'est dans cette ambiance bigarrée que vous avez observé les forts en gueule, les pus du bec, comme vous les appelez affectueusement, ou les sans-dents, comme d'autres les appellent avec condescendance, comme des confinis qui ne sont pas déconfinés. Et sans vous diriger à la baguette, votre père vous mettra à la musique à l'âge de 8 ans. Vous entrerez ensuite au conservatoire de Toulouse, la ville rose si chère à Nougarou, à l'âge de 14 ans, comme d'autres entrent au Panthéon pour changer un peu de refrain. C'est après votre service militaire, sans tambour ni trompette, mais avec persévérance, que vous débuterez votre carrière, et quelle carrière sans bémol, cher Pierre Perret. Car vous avez côtoyé sans claironner tant de personnages haut en couleur. Citons pour exemple Brassens, Paul Léoto, les Platters, les Rolling Stones, ou comme William Scheller, avec lequel vous partagez d'être né le même jour. Vous êtes un homme heureux et avez aussi pour vous d'avoir plusieurs cordes à votre arc. Auteur, compositeur, interprète, écrivain et acteur, fort de tous vos succès musicaux et artistiques, vous réussissez à enchanter toutes les générations. Allez, je vais changer de disque en arrêtant votre hagiographie pour éviter que vous ne tiriez sur le pianiste qui écrivit debout votre portrait. Ma chère Laurence, le moment est venu de recevoir celui qui connaît bien la chanson et qui, sans élever le ton, mais en crescendo, va être le ténor d'Oser Investir au point de nous faire battre la chamade. Bonjour Pierre Perret.
Ben voilà, tout est dit. Hein, là. Il n'y a plus rien à rajouter.
Mais si.
Je suis rouge comme un piment, là.
Merci d'avoir accepté notre invitation, Père Perret.
Mais c'est normal, Sud Radio a toujours été, m'a toujours accompagné dignement tout au long de ma carrière.
J'ai envie de commencer votre interview en disant quelle carrière ? Votre vie, vous l'imaginiez ainsi dans le bar de vos parents à Castelsarrasin ?
Non, pas du tout. Non. Parfois, des collègues à vous me disent, est-ce que vous aviez un plan de carrière ? C'est ça, me fait. Il n'y a rien qui me fait plus rire que ça, parce que moi, j'ai toujours poussé mes pions comme ça gentiment, mais en essayant de ne pas me départir du plaisir que ça me procure, parce que avant tout, j'ai aimé la création et ma liberté. Voilà.
Alors vous avez fait un pari incroyable en prenant dans la France des années 60-70 d'investir un créneau, celui des chansons paillardes aux paroles coquines. C'est comme ça que vous le définissez, je crois, d'ailleurs.
Aussi. Mais moi, j'ai abordé tous les tons. Je ne me suis pas spécialisé dans la paillardise, spécialisé dans la dramaturgie. Moi, j'ai essayé toute ma vie d'être le reflet de la vie que je traverse, c'est-à-dire avec toutes ces émotions, tous ces éclats de rire, et puis tous ces petits sanglots qui se coincent un peu à droite, à gauche, de temps en temps, quand on en a gros sur la patate. Voilà, mais j'ai essayé de retranscrire fidèlement au bout de mon stylo les émotions que je ressentais, et ça m'a pris parfois beaucoup, beaucoup de temps. Mais le temps ne fait rien à l'affaire, là. Quand on décide, il faut le faire. Voilà.
Justement, Pierre Perret, comment vous vivez cette époque-là, en ce moment, où le paillard, le grivois, le 150e degré, franchement, c'est plus du tout tendance, hein, on n'est plus dans le politiquement correct.
Oui, ça, je m'en fous, moi. ça me glisse. Alors, moi, j'ai des plumes de canard pour ça, vous savez.
Des plumes de canard, oui.
Oui, il faut suivre son sillon. Moi, j'ai toujours suivi le mien. Tout le monde n'était pas d'accord, mais ça, je m'en fous aussi. Et moi, l'essentiel, c'est d'être en paix avec moi-même et d'avoir des gens qui me suivent fidèlement depuis tant d'années. Les salles sont toujours pleines. Je dis ça très modestement, sans force imprimée, mais parce que c'est la réalité. Et puis, j'ai toujours gardé la liberté de ton qui a été la mienne tout le temps. Et ça, c'est pas le plus facile, de ne pas se départir de ce qu'on est. Mais il faut aussi, si on sait ce qu'on veut, la preuve, ça peut se faire.
Pierre Perret, c'est le tube Les Jolies Colonies de Vacances qui a fait votre notoriété, en tout cas qui a déclenché la carrière que vous avez connue. Vous avez été interdit pour autant d'antenne en raison d'une phrase dans la chanson pendant 6 mois par l'intervention d'Yvonne de Gaulle, si ma mémoire ne fait pas défaut.
Oui, elle pensait, ou alors elle a pensé que c'était mortel de faire pipi dans le lavabo, parce que c'est vrai que c'est un exercice périlleux, mais ça lui avait pas plu du tout. Et elle a dit à Roland Dordain, qui malheureusement était un ami, qui était le patron de Radio France de l'époque, qui n'était pas encore Radio France d'ailleurs, elle lui a dit, monsieur, nous vous serions reconnaissants, nous, c'est-à-dire qu'elle mettait quand même son conjoint dans le couple. Nous vous serions très reconnaissants de ne plus programmer cette chanson que nous considérons comme la honte de la France. Voilà. J'étais à un moment de ma vie la honte de la France. Et ça, ma foi, ça n'a pas réussi à m'attrister parce que ça m'a arraché un grand éclat de rire.
Alors,
c'est tout ce que ça a fait.
On a parlé des jeunes iconiques de vacances. C'est grâce à ce titre-là que vous avez créé votre maison de disques. Avec ce tube et celui du Zizi qui vous fit gagner 16 disques d'or dans la même année, vous avez gagné... a priori, pas mal d'argent à cette occasion. Et comme beaucoup de Français, c'est dans l'immobilier, puisqu'on est quand même dans Oser Investir, je me permets de revenir à notre sujet, que vous avez investi vos cachets. Parce que c'est là que vous avez acheté votre maison, à Nangy.
Ah oui, ben la première...
Ciné d'ailleurs, le dessinateur ciné, si je ne me trompe pas non plus.
La première fois, voilà, j'avais acheté... Je venais d'acheter ma maison ici, en Seine-et-Marne, d'où je vous appelle là, mais... Je travaillais à l'époque, j'écrivais, parce que pour moi, c'est pas du travail, c'est que du bonheur, l'écriture, mais un plaisir masochiste, bien sûr. Le ciné m'avait prêté sa maison parce que la mienne était tellement bruyante ici, il y avait des travaux toute la journée. Et puis, moi, j'étais, quelques mois avant, je travaillais à Gennevilliers, dans un appartement très, très bruyant aussi, cette femme. Bon. Je suis parti en Normandie et quand Ciné m'a dit ben, « Tu sais, finalement, on va divorcer avec son épouse et on va vendre la maison », j'ai dit ben, « Je te l'achète ». Voilà. Et je lui ai aussi acheté cette maison parce qu'effectivement, je n'étais pas encore très, très argenté. Mais pour moi, c'était un bonheur que d'avoir la possibilité d'écrire dans un endroit où à part les moustiques et les hirondelles, personne ne m'embête. Alors, voilà, il n'y a que, bon, y a qu'une grosse cinquantaine d'années que ça dure, quoi, voilà.
Ce qui est une belle histoire, déjà.
Pierre Perret, vous parlez souvent de bonheur, plaisir, mais de liberté aussi. Comment vous vivez, comment l'artiste, enfin essentiel, vit ce début d'été qui me semble un peu plus libéré, justement?
Bah, écoutez... J'ai été confronté à tellement de situations dans le cours de la carrière, puisque vous parlez d'une carrière, mais que bon, ça fait une fois de plus. Mais je suis simplement un peu effrayé aujourd'hui de voir à quel point on serre les fesses à tout propos, pour tout. La censure devient tellement prégnante, il ne faut pas dire un mot plus haut que l'autre, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire là. J'ai jamais vu la société gendarmée à ce point-là. Et ça, j'avoue que ça m'étreint un peu le cordiolon, ça.
Ça a peut-être inspiré d'autres textes, hein, Pierre Perret, non?
Oui, ben
hein,
oui.
Forcément.
Ben, vous savez... Pendant le confinement, j'ai écrit 3 ou 4 chansons qui ont fait des ricochets un peu quand j'ai écrit Les Confinis à maintenant un an et demi au début de la pandémie. C'est parti comme sur les réseaux, j'avais mis ça en m'amusant. Aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de vues et ça continue, les gens continuent à écouter parce que... Je vais recommencer là bientôt les concerts dans une quinzaine de jours et j'ai eu le bonheur de la chanter une seule fois en scène. C'était dans un des plein air avant que ça soit interdit partout, dans un plein air au-dessus de Nice. Je venais de l'écrire, mais c'était la première fois dont j'avais la surprise. Et pour moi, c'est toujours une grande surprise, chaque fois que je chante une chanson pour la première fois, de voir comment elle est reçue, comment elle est appréhendée. Et là, ils avaient limité à 1 millier de personnes à peu près. Mais dès que j'ai commencé la chanson, toute la salle chantait d'un bout à l'autre. Ils la connaissaient par cœur mieux que moi. Et ça m'a follement amusé.
Alors, comme le veut la tradition dont vous avez investi, Pierre Perret, vous avez retenu une chanson pour terminer notre rencontre de ce matin.
Oui.
Il s'agit de Bobby Lapointe.
C'est qui?
Oui, bah, c'était mon frère. C'était quelque part un copain. On a débuté ensemble. Bon, il est parti trop tôt, le malheureux. Mais c'est un garçon que j'adorais. Puis bon, son humour, son écriture, tout. Je vous dis, avant qu'il s'en aille, j'avais fait une tournée. J'avais fait un passage à Bobino et je l'ai pris avec moi pendant un mois à Bobino. Et on avait demandé au docteur si on pouvait encore le faire chanter. Il a dit, écoutez, ça sera le dernier plaisir qu'il aura sur Terre. Et voilà. Et ben, je suis heureux que ça se soit terminé avec moi et de l'avoir accompagné jusqu'au bout, voilà.
Sur scène.
Ouais. Et bon, on termine avec vous, Pierre Perret, avec Bobby Lapointe, ce titre de 1969. Merci à vous d'être passé du côté d'Oser Investir ce dimanche matin.
Merci beaucoup.
Écoutez, vous êtes menacé de me réentendre encore une fois.
Bah vive ce genre de menace. Hein.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Pierre Perret. Et ben voilà, on finit en beauté le 94e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis. Merci Thomas.
Merci à vous Laurence. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr ou sur l'ensemble des systèmes digitaux de Sud Radio ou d'Oser Investir. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain, Laurence.
À dimanche.
Sud Radio, le grand matin week-end. Osez investir, le club, 9h30-10h, Thomas Binet.
Avec Groupe Peloux, l'immobilier est bien plus encore. Groupe Peloux, l'immobilier est bien plus encore, présente.
Sud Radio, le grand matin week-end. Osez investir, le club, 9h30-10h, Thomas Binet.
Et c'est l'heure de retrouver notre invité. Quel invité, Pierre Perret, qu'on ne présente plus. Et pourtant, bah, comme à chaque fois, Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers un portrait un peu inattendu. Et forcément, ça va être un petit réveil en fanfare ce dimanche matin.
Oui, chers auditeurs, vous allez tout savoir sur Pierre Perret, le vrai, le faux. S'il est laid ou s'il est beau, si c'est un dur ou c'est un mou, je vais tout vous dire sur Pierre Perret. Mais quel bonheur de vous recevoir, Pierre Perret, dans Osez Investir, vous qui êtes un personnage à part dans la chanson française. Alors sans vouloir vous faire un concert de louanges ni sortir les violons, déchiffrons ensemble la partition de votre vie. Vous êtes né un 9 juillet à Castel-Sarrazin ou Castel pour les intimes, au moment des jolies colonies de vacances et avez grandi dans le café-bar-restaurant de vos parents. Il est assez probable que c'est dans cette ambiance bigarrée que vous avez observé les forts en gueule, les pus du bec, comme vous les appelez affectueusement, ou les sans-dents, comme d'autres les appellent avec condescendance, comme des confinis qui ne sont pas déconfinés. Et sans vous diriger à la baguette, votre père vous mettra à la musique à l'âge de 8 ans. Vous entrerez ensuite au conservatoire de Toulouse, la ville rose si chère à Nougarou, à l'âge de 14 ans, comme d'autres entrent au Panthéon pour changer un peu de refrain. C'est après votre service militaire, sans tambour ni trompette, mais avec persévérance que vous débuterez votre carrière. Et quelle carrière sans bémol, cher Pierre Perret, car vous avez côtoyé sans claironner tant de personnages ou en couleur. Citons pour exemple Brassens, Paul Leotto, les Platters, les Rolling Stones ou comme William Scheller, avec lequel vous partagez d'être né le même jour. Vous êtes un homme heureux et avez aussi pour vous d'avoir plusieurs cordes à votre arc. Auteur, compositeur, interprète, écrivain et acteur, fort de tous vos succès musicaux et artistiques, vous réussissez à enchanter toutes les générations. Allez, je vais changer de disque en arrêtant votre hagiographie pour éviter que vous ne tiriez sur le pianiste qui écrivit debout votre portrait. Ma chère Laurence, le moment est venu de recevoir celui qui connaît bien la chanson et qui, sans élever le ton, mais en crescendo, va être le ténor d'Oser Investir au point de nous faire battre la chamade. Bonjour Pierre Perret.
Ben voilà, tout est dit. Hein, il n'y a plus rien à rajouter.
Mais si.
Je suis rouge comme un piment, là.
Merci d'avoir accepté notre invitation, Père Perret.
Mais c'est normal, Sud Radio a toujours été, m'a toujours accompagné dignement tout au long de ma carrière.
J'ai envie de commencer votre interview en disant quelle carrière. Votre vie, vous l'imaginiez ainsi dans le bar de vos parents à Castel-Sarrazin?
Non, pas du tout. Non. Parfois, des collègues à vous me disent, est-ce que vous aviez un plan de carrière? Ça me fait, il n'y a rien qui me fait plus rire que ça, parce que moi, j'ai toujours poussé mes pions comme ça gentiment, mais en essayant de ne pas me départir du plaisir que ça me procure. Parce que, avant tout, j'ai aimé la création et ma liberté. Voilà.
Alors vous avez
ça résume à ça.
Vous avez fait un pari incroyable, hein, en prenant dans la France des années 60-70 d'investir un créneau, celui des chansons paillardes aux paroles coquines. C'est comme ça que vous le définissez, je crois, d'ailleurs.
Aussi. Mais moi, j'ai abordé tous les tons. Je ne me suis pas spécialisé dans la paillardise, spécialisé dans la dramaturgie. Moi, j'ai essayé toute ma vie d'être le reflet de la vie que je traverse, c'est-à-dire avec toutes ces émotions, tous ces éclats de rire, et puis tous ces petits sanglots qui se coincent un peu à droite, à gauche, de temps en temps, quand on en a gros sur la patate. Voilà, mais j'ai essayé de retranscrire fidèlement au bout de mon stylo les émotions que je ressentais, et ça m'a pris parfois beaucoup, beaucoup de temps. Mais le temps ne fait rien à l'affaire, là. Quand on décide, il faut le faire. Voilà.
Justement, Pierre Perret, comment vous vivez cette époque-là, en ce moment, où le paillard, le grivois, le 150e degré, franchement, c'est plus du tout tendance, hein. On n'est plus dans le politiquement correct.
Oui, mais ça, je m'en fous, moi. ça me glisse. Alors, moi, j'ai des plumes de canard pour ça, vous savez.
Des plumes de canard, oui.
Oui, il faut suivre son sillon. Moi, j'ai toujours suivi le mien. Tout le monde n'était pas d'accord, mais ça, je m'en fous aussi. Et moi, l'essentiel, c'est d'être en paix avec moi-même et d'avoir des gens qui me suivent fidèlement depuis tant d'années. Les salles sont toujours pleines. Je dis ça très modestement, sans force imprimée, mais parce que c'est la réalité. Et puis... j'ai toujours gardé la liberté de ton qui a été la mienne tout le temps. Et ça, c'est pas le plus facile, de ne pas se départir de ce qu'on est. Mais il faut aussi, si on sait ce qu'on veut, la preuve, ça peut se faire.
Pierre Perret, c'est le tube Les Jolies Colonies de Vacances qui a fait votre notoriété, en tout cas qui a déclenché la carrière que vous avez connue. Vous avez été interdit pour autant d'antenne en raison d'une phrase dans la chanson pendant 6 mois par l'intervention d'Yvonne de Gaulle, si ma mémoire ne fait pas défaut.
Oui, elle pensait, ou alors elle a pensé que c'était mortel de faire pipi dans le lavabo, parce que c'est vrai que c'est un exercice périlleux, mais ça lui avait pas plu du tout. Et elle a dit à Roland Dordain, qui malheureusement était un ami, qui était le patron de Radio France de l'époque, qui n'était pas encore Radio France d'ailleurs, elle lui a dit, monsieur, nous vous serions reconnaissants, nous, c'est-à-dire qu'elle mettait quand même son conjoint dans le coup, nous vous serions très reconnaissants de ne plus programmer cette chanson que nous considérons comme la honte de la France, voilà. J'étais à un moment de ma vie la honte de la France. Et ça, ma foi, ça n'a pas réussi à m'attrister parce que ça m'a arraché un grand éclat de rire.
Alors,
tout ce que ça a fait.
On a parlé des Jolies Colonies de Vacances. C'est grâce à ce titre-là que vous avez créé votre maison de disques. Avec ce tube et celui du Zizi qui vous fit gagner 16 disques d'or dans la même année, vous avez gagné... a priori, pas mal d'argent à cette occasion. Et comme beaucoup de Français, c'est dans l'immobilier, puisqu'on est quand même dans Oser Investir, je me permets de revenir à notre sujet, que vous avez investi vos cachets. Parce que c'est là que vous avez acheté votre maison, à Nangis.
Ah oui, ben la première...
À Ciné d'ailleurs, le dessinateur Ciné, si je ne me trompe pas non plus.
La première fois, voilà, j'avais acheté... Je venais d'acheter ma maison ici, en Seine-et-Marne, d'où je vous appelle là, mais... Je travaillais à l'époque, j'écrivais, parce que pour moi, c'est pas du travail, c'est que du bonheur, l'écriture, mais un plaisir masochiste, bien sûr.
Le
ciné m'avait prêté sa maison parce que la mienne était tellement bruyante ici, il y avait des travaux toute la journée, et puis moi, j'étais, quelques mois avant, je travaillais à Gennevilliers, dans un appartement très très bruyant aussi, cette fois, bon... Je suis parti en Normandie et quand Ciné m'a dit « Tu sais, finalement, on va divorcer avec son épouse et on va vendre la maison », j'ai dit « Je te l'achète ». Voilà. Et je lui ai aussi acheté cette maison parce qu'effectivement, j'étais pas encore très très argenté, mais pour moi, c'était un bonheur que d'avoir la possibilité d'écrire dans un endroit où à part les moustiques et les hirondelles, personne m'embête. Alors, voilà, il n'y a que... Bon, il n'y a qu'une grosse cinquantaine d'années que ça dure, quoi, voilà.
Ce qui est une belle histoire déjà.
Pierre Perret, vous parlez souvent voilà, bonheur, plaisir, mais de liberté aussi. Comment vous vivez, comment l'artiste enfin essentiel vit ce début d'été qui me semble un peu plus libéré justement?
Bah écoutez, j'ai été confronté à tellement de situations dans le cours de la carrière, puisque vous parlez d'une carrière, mais que bon, ça fait une fois de plus, mais je suis simplement un peu effrayé aujourd'hui de voir à quel point on serre les fesses à tout point, à tout propos, pour tout. La censure devient tellement prégnante. Il faut pas dire un mot plus haut que l'autre. Il faut pas faire ci, il faut pas faire là. C'est, j'ai jamais vu la société gendarmée à ce point-là. Et ça, j'avoue que ça mettra un peu le cornulon, ça.
Ça a peut-être inspiré d'autres textes, hein, Pierre Perret. Non?
Oui, ben
hein,
oui.
Forcément.
Ben vous savez. Pendant le confinement, j'ai écrit 3 ou 4 chansons qui ont fait des ricochets un peu quand j'ai écrit Les Confinis il y a maintenant un an et demi, au début de la pandémie. C'est parti comme sur les réseaux, j'avais mis ça en m'amusant. Aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de vues et ça continue, les gens continuent à écouter parce que... Je vais recommencer là bientôt les concerts dans une quinzaine de jours et j'ai eu le bonheur de la chanter une seule fois en scène. C'était dans un des plein air avant que ça soit interdit partout, dans un plein air au-dessus de Nice. Je venais de l'écrire, mais c'était la première fois dont j'avais la surprise. Et pour moi, c'est toujours une grande surprise, chaque fois que je chante une chanson pour la première fois, de voir comment elle est reçue, comment elle est appréhendée. Et là, eh ben, ils avaient limité à 1 millier de personnes à peu près. Mais dès que j'ai commencé la chanson, toute la salle chantait d'un bout à l'autre. Ils la connaissaient par cœur mieux que moi. Et ça m'a follement amusé.
Alors, comme le veut la tradition dont vous avez investi, Pierre Perret, vous avez retenu une chanson pour terminer notre rencontre de ce matin.
Oui.
Il s'agit de Bobby Lapointe.
C'est qui ?
Oui, c'était mon frère. C'était quelque part un copain. On a débuté ensemble. Bon, il est parti trop tôt, le malheureux. Mais c'est un garçon que j'adorais. Puis bon, son humour, son écriture, tout. Je vous dis, avant qu'il s'en aille, j'avais fait une tournée, j'avais fait un passage à Bobino et je l'ai pris avec moi pendant un mois à Bobino et on avait demandé au docteur si on pouvait encore le faire chanter. Il a dit, écoutez, ce sera le dernier plaisir qu'il aura sur Terre et voilà. Et ben, je suis heureux que ça se soit terminé. Avec moi et de l'avoir accompagné jusqu'au bout, voilà.
Sur scène.
Et bon, on termine avec vous, Pierre Perret, avec Bobby Lapointe, ce titre de 1969. Merci à vous d'être passé du côté d'Oser Investir ce dimanche matin.
Merci beaucoup.
Écoutez, vous êtes menacé de me réentendre encore une fois.
vive ce genre de menace. Hein.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Pierre Perret. Et ben voilà, on finit en beauté le 94e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis. Merci Thomas.
Merci à vous Laurence. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr ou sur l'ensemble des systèmes digitaux de Sud Radio ou d'Oser Investir. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain, Laurence.
À dimanche.
Sud Radio, le grand matin week-end. Oser Investir, le club, 9h30-10h. Thomas Binet.
Avec Groupe Peloux, l'immobilier est bien plus encore.